Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova.
Je quitte le château dans mon automobile. Je suis en retard. Téléphone-moi encore, je promets que je ne répondrai pas. Tu changes et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça. Je sens que le temps nous veut mort. J'ai beau me dire que c'est temporaire, à chaque fois, c'est l'enfer quand t'es pas là. Je fais vraiment tout à l'envers. Quand t'es pas là, je me terre, j'ai envie de sauter toutes les heures qui nous séparent et je m'enferme, j'entends ta voix dans l'appartement, tu sais, quand tu chantes à contre-temps. En quelle année sommes-nous ? Se demande l'agent très spécial Dale Cooper à la dernière minute de la dernière saison de Twin Peaks. Comme les grains dorés du sablier renversé, l'amour se dissout-il inexorablement dans le temps ? Ou y a-t-il une possibilité d'inventer à deux, ou à plusieurs, et de toutes pièces, une hyper-horloge qui permet de contrer les lassitudes, l'ennui, l'éloignement, un autre temps amoureux, de nouveaux battements ? Faut-il tout reprendre à zéro, à minuit, à l'instant I de la rencontre ? Si vous aviez le pouvoir de construire une machine à explorer le temps, comme la DeLorean de Retour vers le futur, ou celle primordiale, imaginée par H.G. Wells pour son célèbre premier roman, publié en 1895 et qu'il mit 36 ans à achever, iriez-vous explorer toutes vos premières fois, toutes les rencontres importantes de votre vie ? Vous empêcheriez-vous de rencontrer telle ou telle personne quand on connaît la suite ? C'est le genre de question métaphysique que soulève l'écoute langoureuse et hypnotique de Contretemps, le second album de Flavien Berger, 32 ans, publié à l'automne dernier chez Pan European Recording, 3 ans après l'aquatique Léviathan. 1 heure, 3 minutes et 23 secondes de nappe électronique sensuelle, de couple en apesanteur, de pop mutante, de house vaudou, dit-il, que nous allons traverser avec lui ce soir d'une drôle de manière. Bonsoir, c'est Richard Guettet. Bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez du lundi au jeudi de 21h à 22h, tel un phare dans la nuit, depuis maintenant 7 ans. Pour la dernière émission de cette 7ème saison, nous sommes en public. Enfin, est-ce que je suis en public ? Est-ce que je suis tout seul ? Je m'en rends pas bien compte.
Ça va, je me sens un peu mieux, je ne suis pas seul.
Nous sommes en public et en direct du marché Dauphine, au cœur des puces de Saint-Ouen, rue des Rosiers. Sous la verrière du marché Dauphine, ce rendez-vous des passionnés d'antiquités classiques ou modernes. Et je suis moi-même au pied d'un objet curieux, gigantesque et rarissime qui va servir de décor de rêve à ce programme science-fictionnel, une soucoupe volante. Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, une magnifique soucoupe volante de couleur marron tirant sur le jaune, conçue en 1968 par l'architecte finlandais Matti Suronen, À la demande d'un copain qui avait envie d'un chalet nomade, d'un chalet mobile pour ses vacances au ski. L'architecte a donc imaginé, pour ce client richissime, ce qu'il a nommé la maison Futuro, 3 mètres de haut, 8 mètres de diamètre, transportable par hélico pour permettre aux skieurs de se loger directement sur les montagnes enneigées. Mais, détail fascinant, le créateur a décidé de lui donner la forme d'une soucoupe avec des hublots et à l'intérieur, un mobilier assez chic au design rétro-futuriste qui rappelle les intérieurs de 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti au cinéma la même année. Il existe une petite centaine de maisons Futuro dans le monde, celle-ci est devenu l'un des symboles des puces de Saint-Ouen. Et me croiriez-vous si je vous dis qu'elle est habitée ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, terriens, terriennes, peuples de toutes les galaxies, aux antennes branchées sur la nôtre, je vous demande de faire un accueil tout à fait spatial à mon invité de ce soir, Flavien Berger. Ça a quand même de la gueule. Bonsoir Flavien Berger.
Bonsoir.
Étant donné que cette émission a lieu le jour du pic national de canicule, je me sens obligé de démarrer en vous citant, une phrase étonnante que j'ai lue dans une interview. J'ai commencé la musique adolescent parce que j'ai un problème. Je réagis mal à ma transpiration, ça m'irrite.
Ouais. C'est un problème que je règle de plus en plus depuis que je fais de la musique. Du coup, je boucle la boucle parce que je suis obligé de transpirer quand je fais des concerts. Ce que j'avais pas prévu, forcément. Et de fait, ben, je suis bien obligé d'être perméable à ma propre transpiration, créant un cycle de liquide infini, comme ça. Et donc, c'est réglé, ça y est, ça c'était avant. Maintenant, je peux suer.
Je vous félicite. Alors, cette anecdote adolescente n'est pas si anecdotique, justement, puisque ce problème de transpi vous interdit de sport. Et comme vous le dites très bien, il fallait, à l'époque, que je me trouve une occupation. À 14-15 ans, vous avez commencé à composer de la musique sur une PlayStation 2, via un jeu qui sert à fabriquer de la musique avec des blocs, des grilles mélodiques, des CD à sampler. Un jeu qui vous permettait d'enregistrer vos propres compositions, d'apprendre la rythmique, les arpèges. Et c'est petit à petit que cette activité est devenue, mot-clé pour ce soir, de plus en plus chronophage.
Ouais, c'est une pratique en fait, c'est devenu une pratique par le temps où d'abord c'est une sorte de foyer où on se retrouve, dans lequel on se retrouve parce qu'on passe du temps pour soi-même, pour avancer dans une... comme ça dans un jeu. C'était un jeu, ça avait l'aspect d'un jeu et puis ça avait aussi l'aspect d'un logiciel. Et à force d'y jouer, on se rend compte qu'on apprend et à force d'apprendre, on a envie de s'exprimer avec ça. Et puis en fait, un jour, on se rend compte que c'est un outil qu'on maîtrise comme un mec qui s'entraînerait à la guitare, quoi. Sauf que là, c'était des grilles, des dossiers, des samples et des musiques inécoutables.
Inécoutables ?
Non. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'écouter aujourd'hui n'aurait pas trop de sens. Parfois, je remets une oreille pour me dire il y a quand même peut-être quelque chose de bien là-dedans. Non,
c'est
rien. Mais c'était une pratique, c'est-à-dire que je m'entraînais, c'était des exercices pour comprendre comment ça fonctionnait. Par le même biais, je l'enregistrais, mais ça me servait à, après, voilà, maîtriser le truc pour faire enfin ce que je voulais faire.
Il y avait déjà du chant à l'époque et des paroles en français ?
Un petit peu, ouais, de loin. Bah, j'ai fait des études de lettres, enfin, j'ai fait le lycée en lettres. Du coup, j'étais obligé de lire des poètes, donc après, je me prenais pour un poète, donc j'écrivais sur les marges de cahier des poèmes.
Ah ouais ?
Donc c'est là que commence l'écriture. Et puis après, et les deux, c'est, en fait, j'ai utilisé ma voix quand j'ai pu commencer à enregistrer ma voix. Ce qui n'a pas été tout de suite. Je n'avais pas techniquement les moyens de chanter directement sur un instrumental ou sur quelque chose comme ça. Donc c'est venu en fait un peu plus tard, la voix. Et puis au début, la voix était comme des instruments que je ne savais pas trop faire. Donc comme des violons au loin, noyés dans des réverbérations, des trucs un peu, des chœurs, mais jamais frontal, quoi. Mettre la voix, mon dernier album et les contretemps, c'est vraiment la fois où j'ai le plus mis ma voix en avant, au-dessus de tout, quoi. Vraiment, j'avais jamais vraiment fait ça à ce point-là avant. C'est toujours un peu caché, toujours un peu parmi l'instrumental.
En ces années de poète maudit, qui lisez-vous ? Quel lecteur êtes-vous ? S'il faut trouver une occupation, il y a la musique, mais est-ce qu'il y a aussi, de fait, de la lecture ?
Il y a une tentative de lecture. Je ne suis pas bon lecteur. Cette époque-là, je lis les livres qu'on me demande de lire. Donc, je lis Baudelaire, je lis Giono. Et puis, je lis aussi quelques livres que mon frère me conseille, dont j'ai un grand souvenir de Je suis une légende de Richard Matheson, qui est un film, qui est un livre.
Qui est devenu un film avec Will Smith.
Qui est devenu un livre, un film avec Will Smith. Mais je suis troublé parce qu'en fait, l'adaptation du film dit tout le contraire de ce que le livre disait. Ça se passe à la fin, donc j'en parlerai pas. C'est vraiment une prise de position quant à l'axe de vie ou de mort du héros. Et qu'est-ce que veut dire ?
Est-ce qu'on peut rappeler en deux mots le point de départ du roman ?
C'est le dernier homme sur Terre et la Terre est infestée de vampires ou de zombies, enfin de vampires zombies. Et c'est le dernier homme sur Terre et il n'a plus vraiment de raison de vivre si ce n'est essayer de survivre. Et donc il est tout seul chez lui, il se barricade, la journée il peut vivre et le soir les vampires se lèvent, donc il se barricade. Et donc c'est un peu existentiel parce qu'il essaye de remener une vie comme avant, il essaye de faire que les choses aient du sens, mais petit à petit ça en a pas et l'empire vampire l'appelle petit à petit. Et donc lui il se bat contre ses démons intérieurs et puis les démons à l'extérieur quoi.
Donc ça, c'est important quand on est ado.
Oui, oui, voilà. Ouais. Mais Matheson, gros ouais, auteur de science-fiction, l'homme qui a rétréci, enfin voilà, des trucs assez pas mal. Et puis, voilà, je disais pas plus que ça.
Alors ces souvenirs pubères nous font naviguer dans le temps. Et on appelle aussi ça, si je veux frimer, la chronotique.
Ouais.
C'est le thème principal de votre album Contre-temps. Contre-temps, c'est aller à l'inverse du flux temporel, mais c'est en fait et surtout pour vous le contre du rapprochement, c'est-à-dire l'idée romantique de corps qui s'entrechoquent et qui tentent de trouver leur propre tempo, ce qui donne sa couleur au disque. Alors comment vous en êtes arrivé à cette idée, c'est-à-dire de fabriquer une musique capable, et la formule est de vous, de se lover dans le temps ?
Bah, je sais pas si c'est la musique qui se love dans le temps, mais c'est l'intention de celui qui raconte cette histoire, qui n'est pas forcément moi d'ailleurs, c'est pas un disque autobiographique, je crois pas parler de ma vie personnelle, j'essaie de parler
Et d'ailleurs, si je peux me permettre de vous interrompre, vous êtes opposé, en tout cas c'est un truc assez viscéral, de ne pas écrire du biographique, parce que quand on se met trop à nu, ça finit toujours par vous revenir dans la gueule.
C'est sûr, c'est sacrificiel de mettre sa vie sur une platine. Et que du coup on puisse la juger ou la mettre en perspective ou décider de ce qu'elle est vraiment. Donc après j'ai décidé d'être musicien, donc c'est un petit peu
biaisé.
Ouais, biaisé, mais j'essaye en tout cas de raconter une vie, c'est pas forcément la mienne et c'est un peu la mienne. Et se lever dans le temps, en fait au début je pensais que ce disque allait s'appeler Entre-temps. Et puis il y a le contre-temps qui s'est imposé parce qu'il y avait eu déjà des histoires de contre avant dans mes projets musicaux. Quand je faisais des remixes, j'appelais ça des contre quelque chose, des contre-vents, des contre-larmes, des contre-emplacements, des contre-bandes. Ouais. J'avais ce disque gratuit qui s'appelait Contre-bande et j'aimais bien un petit peu voilà, repiocher dans cette notion pour en faire quelque chose encore, le contre. Et très vite, en fait, je voulais pas parler d'aller à l'envers, même s'il y a un morceau qui s'appelle À reculons. Quand on est à reculons, on n'est pas... à l'envers, on est toujours droit, mais on marche en arrière. Enfin, c'est pas de retourner dans le passé, c'est d'essayer de choper le présent, en fait. Bon, encore plus, donc peut-être ralentir le présent et en ça se lover par le contact, parce que ça reste pour une grande partie des chansons d'amour. Donc il y a une idée du contact. Voilà.
Vous avez étudié à l'École nationale supérieure de création industrielle, les ateliers, à Paris 11, une école pour laquelle vous avez rédigé un mémoire de fin d'études qui a pour thème, je vous le donne en mille, les voyages dans le temps. Ça vous a pris un an de rédiger ce mémoire. Et au cœur de ce travail, il y a une analyse extrêmement minutieuse, détail par détail, du tableau d'un artiste américain qui s'appelle Paul LaFolie, qu'on peut entendre comme Paul LaFolie.
Oui, ça vient de là, je pense.
Qui est un artiste autiste atteint du syndrome d'Asperger, qui faisait de grands diagrammes cosmologiques de malade, c'est votre expression, avec des moments de clarté magnifique et d'autres très complexes. Et le tableau que vous avez choisi d'analyser représente un plan de machine à voyager dans le temps, le Géochron Mécan, qui date de 1990, qui a été réalisé au stylo sur une planche en carton et qui a enclenché dans votre cerveau sans doute une sorte d'envie presque mécanique de tout savoir sur ce tableau. Et bien figurez-vous que grâce à ma propre machine à voyager dans le temps, je suis rentré en possession avec votre mémoire de fin d'études, qui est là, devant moi.
J'y ai trouvé des informations très intéressantes et pas hyper confidentielles, du coup, qui m'ont permis de comprendre un peu mieux à la fois votre obsession pour les voyages dans le temps et le lecteur que vous êtes. Dans l'introduction, vous dites que le voyage dans le temps est un thème qui vous est cher. Ces projections amènent l'inhabituel, l'extraordinaire, mais aussi un recul qui permet l'analyse d'un présent mutant. L'outre-espace, les vaisseaux, les autres dimensions sont un terrain pour vos rêveries. Et vous vous êtes un peu immergé, presque de manière un peu trop intense dans cette histoire, parce que vous êtes allé jusqu'à vous regarder des vidéos d'un type qui explique avoir construit dans son garage une machine à mouvement perpétuel en parfait état de fonctionnement. Ouais. Que vous avez...
bah, en fait,
eh bien, il est là. Non.
Il est mystique, Paul Lafollette. Alors, il touche à des terrains parfois un peu dodgy, comme on dirait.
Dodgy.
En anglais, c'est entre dangereux et ça craint, quoi. Okay. Ça craint un peu une rue dodgy la nuit, c'est une rue qui craint, quoi.
Okay.
Et donc ces terrains, le mouvement perpétuel, tout ça, l'énergie infinie, c'est des terrains qui touchent les grands mystiques, quoi.
Vous avez douté de votre propre réalité au cours de cette année de recherche.
En tout cas, j'ai dû poser très vite des barrières. En fait, c'est sans fin. Parce que son travail est sans fin. Son travail ne fait que rappeler des concepts en eux-mêmes et les ingurgiter pour essayer de trouver une forme parfaite qui explique tout. C'est ça son travail à Paul Lafollette. Qu'il n'a pas réussi. Parce qu'il est...
parce que c'était difficile.
Parce que je pense qu'il faut plus qu'une vie.
Ouais. Et puis
l'humanité change aussi, donc il faut changer avec elle. Mais il a fallu que je calme mon truc et que je me dise, en fait, qu'est-ce que je fais ? Soit j'essaye d'être Paul Lafollette et de courir après lui pour de tout expliquer, soit en fait je reste sur le voyage dans le temps et j'analyse son tableau. Mais mon truc, c'était qu'en fait je voulais savoir si elle marchait ou pas, cette machine.
Ouais.
Donc ça demandait
et
vraiment...
Et la réponse est
La réponse est que j'ai pas encore trouvé la réponse.
Merde.
Donc déception pour l'instant, elle marche
public.
Pas. Mais en tout cas, c'est génial que je sois sorti de cette soucoupe volante, parce que c'est une forme qui lui est très chère, qu'il a voulu, qu'il a lutté pour la placer dans une comme nouvelle forme classique après toutes les colonnes qu'on connaît, et qu'il explique que le nombre d'or est représenté en soucoupe volante beaucoup plus que dans toutes les formes classiques qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà.
Pendant ce travail de mémoire sur les voyages dans le temps, vous avez lu des romans sur le sujet, beaucoup de romans sur les voyages dans le temps. Et dans ce mémoire, on voit que vous consignez ces lectures dans des petites fiches de lecture. Alors j'en ai sélectionné certaines et que vous allez nous lire sur l'un de vos instrumentaux, ce qui, à mon avis, va être un moment sympa.
On est là pour ça.
On peut l'encourager ou...
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
. 1881, l'écrivain américain Edward Page Mitchell, 1852-1927, publie la nouvelle The Clock That Went Backward. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui hérite de sa tante Gertrude une horloge étrange. Lui et son cousin, le narrateur de cette histoire, partent finir leurs études en Hollande, comme le voulait la défunte tante. Mais une fois installés, le mécanisme obscur de la petite horloge les projette au XVIe siècle, en pleine situation de siège par l'armée espagnole. Le héros empêche la prise de la cité, se marie et devient un ancêtre de sa propre tante. Le narrateur, quant à lui, retourne dans son présent. Ceci est la première fiction dans laquelle le voyage dans le temps d'un personnage est causé par un mécanisme. . 1885. L'écrivain anglais H.G. Wells, 1866-1946, publie La machine à explorer le temps, The Time Machine, le premier roman où une technologie conçu à cet effet, permet à un sujet de rompre avec l'écoulement du temps classique en voyageant dans le temps comme on voyage dans la dimension spatiale. L'écrivain américain Mark Twain, 1835-1910, publie A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, roman parlant du voyage dans le temps, dans lequel le héros se retrouve projeté dans le passé à la suite d'un coup sur la tête. et retourne dans son présent à la fin de son aventure par le biais de la magie. L'écrivain français Alfred Jarry publie en annexe de son traité de pataphysique « Gestes et opinions du docteur Fostrol, pataphysicien, un commentaire pour servir à la construction pratique de la machine à explorer le temps ». Il s'agit d'une proposition de construction très technique d'un habitacle pour explorer la dimension temporelle, au même titre que l'espace. 5 courts chapitres traitent successivement de la nature du milieu, de la théorie, de la description, du fonctionnement de la machine et du temps vu de la machine. Jarry n'hésite pas à faire appel à des formules scientifiques pour appuyer ses propositions techniques. Le fonctionnement repose sur une disposition de plusieurs gyroscopes géants et d'un contrôle à partir d'un levier. La perception du temps suit celle de H.G. Wells en tant que dimension rapprochable de l'espace et que le corps, à l'aide d'un principe physique, peut parcourir. L'écrivain français René Barjavel, 1911-1985, publie le roman Le Voyageur imprudent. Son héros fabrique un scaphandre et qui, à l'aide d'une substance permettant le voyage dans le temps, explore le futur en l'an 100 000, où il découvre une humanité à l'organisation sociale proche des insectes, dénuée d'individualité. Il décide ensuite de retourner au XVIIIe siècle afin d'assassiner Napoléon Bonaparte et changer le cours de l'histoire. Mais au moment du crime, un soldat, qui est en fait l'aïeul du héros, se met dans la trajectoire du tir, reçoit les balles et meurt. 15 ans après la première publication du roman, Barjavel rajoute un post-scriptum où il décrit son histoire ainsi. Il a tué son ancêtre ? Donc il n'existe pas. Donc il n'a pas tué son ancêtre. Donc il existe. Donc il a tué son ancêtre.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Flavien Berger, merci. Quel est votre roman préféré parmi tous ceux dont vous venez de parler ? Quel est celui dont la lecture a été la plus...
Je réfléchis. Ouais. Je sais pas du tout.
Ah, ok, Le Voyageur imprudent me semble vraiment...
Ouais, mais après il y a un film qui a été fait et qui met des images de ce roman dans ma tête. Et que j'aurais préféré pas voir. Okay. Qui n'est pas mauvais, mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'imagine. Honnêtement, je sais pas. Non, je dirais le H.G. Wells qui est encore. En fait, il y a un problème avec les films de voyage dans le temps à l'écran, c'est qu'il y a peu de bonnes adaptations des romans. Pareil, le film d'H.G. Wells, il y a eu 2 adaptations qui sont aussi un peu décevantes, quoi. Mais c'est quand même un roman génial parce que c'est un pilier et que. C'est là que ça se passe.
Depuis la rédaction de ce mémoire, est-ce que vous avez lu d'autres histoires de ce type ?
J'en ai lu plusieurs, ouais. Mais j'ai lu une bande dessinée.
Qui s'intitule Patience.
Patience, ouais.
De l'américain Daniel Clowes.
C'est ça.
Qui est devant nous, là, sur la table. Absolument, absolument passionnant. Alors, pour résumer, c'est l'histoire d'un type d'environ 40 ans qui est unanimement considéré comme un loser. Il a un job de merde et personne vraiment le respecte.
Comme dans toutes ses BD un peu.
Ouais, comme dans toutes les BD de Daniel Clowes. Et un jour, il rentre chez lui et il découvre que sa nana a été assassinée. Et les semaines se passent et en fait, on n'identifie pas le meurtrier, on ne sait pas qui a fait ça. Et il se trouve que le hasard va l'amener à rencontrer quelqu'un qui vient de mettre au point une machine à remonter le temps. Et donc il va obliger ce type-là à utiliser sa machine pour essayer d'arriver juste avant le meurtre et l'empêcher. Sauf que vu que c'est un mec qui est sympathique mais pas très malin, et ben en fait il va foutre un bordel pas possible dans sa vie et dans la vie des autres. Et la machine va se dérégler, ce qui fait qu'il y a vraiment une espèce de frénésie narrative où on n'arrête pas de se balader et en fait c'est de pire en pire. En fait c'est vraiment pas du tout le héros vertueux et malin comme peut l'être Marty McFly dans Retour à le futur, si vous voulez. Et c'est assez déchirant,
ça s'enraye, ouais. C'est un peu, et puis il y a une question de boucle aussi et moi je sais que je l'ai lu en écoutant une musique de film parce que ça soutenait vachement bien l'intrigue et que ça aidait à rentrer dans le dans le, bah, l'escalade, en fait, c'est vraiment une escalade, mais comme dans beaucoup de CBD où normalement ça va, ça devient la merde devient exponentielle. On se retrouve avec une cascade. De...
Quoi non. d'autre
Là, j'ai un petit trou de
petit trou. Un petit trou, un petit trou de verre,
un petit trou d'évidence. Ouais. Ouais.
Plus loin dans ce mémoire, vous partagez vos réflexions avec, à propos de l'écrivain américain Philip K. Dick, 1928-1982, l'auteur de Blade Runner, de Total Recall, de Minority Report, du Big, du Maître du Haut Château. C'est un des géants visionnaires, incontournables et paranoïaques de la science-fiction mondiale. Est-ce que, sauf si vous avez quelque chose à ajouter à son sujet, est-ce qu'on ne s'engagerait pas vers une deuxième lecture tirée de ce mémoire, de nouveau sur l'un de vos instrumentaux ?
Avec grand plaisir.
Formidable.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Je me figure la dynamique causale dans le temps comme des ramifications de dominos allongés dans un champ de dominos droits. Chaque chute de domino est causée par la chute du domino précédent. Ainsi, dans la multitude d'événements possibles à chaque instant, seule une sélection infime s'inscrit dans la réalité. En 1975, Philip K. Dick publie le roman de science-fiction à rebrousse-temps, Counter Clock World, dans lequel le cours du temps se voit inversé en 1986. Phénomène nommé l'effet Hobart. Il mêle des notions fascinantes sur le temps et nos pratiques sociales en conséquence de son inversion et des conceptions loufoques comme des patchworks poétiques. Dans cet univers, c'est lorsqu'on rentre dans ces temps-là quittants, après avoir fumé des cigarettes à l'envers, que l'air est de nouveau respirable. Les vivants ingèrent une substance nommée sogum qu'ils devront régurgiter à l'écart des regards, ersatz de la défécation dans une logique bancale d'inversion. Les morts, appelés anciens nés, reviennent à la vie pour peu à peu rajeunir et finalement rejoindre une matrice, c'est-à-dire le ventre de mère volontaire pour les porter durant 9 mois jusqu'à régression totale. Cette période s'achève par une union physique entre la femme porteuse et un partenaire masculin. Cette nouvelle société victime d'une inversion globale est contrainte de réagir au travers du canevas causal de ce qu'elle fut. De nouveaux organismes apparaissent tels que les oblites, siégeant au sein des bibliothèques, cette institution plus puissante que la police détruit au gré de leur parution tous les documents, effaçant les ouvrages de la mémoire collective, désécrivant les manuscrits, asseyant ainsi une entreprise de censure mondiale, mais suivant la logique de l'inversion causale. Ce grand renversement signifie également que l'on peut prévoir les événements à venir, en particulier ceux qui ont eu un impact sur l'histoire. Sébastien Hermès, gérant d'un Vitarium, société spécialisée dans le repérage et l'extraction du sol de morts revenus à la vie, détecte les appels souterrains des candidats à la sortie, les extirpe des tombes et préserve leur santé en attendant de pouvoir les revendre à leur famille, voire aux plus offrants. Lors d'une excavation de routine, il découvre le cadavre d'un influent leader religieux, l'anarque Thomas Pick. Hermès, motivé par le profit que peut engendrer sa revente, s'en empare bien qu'il ne soit pas connu. S'en empare bien qu'il ne soit pas encore revenu à la vie. Désormais, plusieurs institutions cherchent à s'emparer de l'anarque et de ce qu'il représente, et le héros se retrouve au centre d'une intrigue classique d'action à suspense. J'ai lu ce roman il y a 6 ans, un après-midi d'été, et il m'avait captivé surtout par sa variété de tons. Il mêle le naïf absurde que j'aime dans le cinéma de Michel Gondry ou de Spike Jonze à l'aventure rétro-futuriste des films de Paul Verhoeven. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la notion d'inversion temporelle et de bouleversement causal pour la première fois. La première fois que je rencontre le mot « précognition », c'est en lisant le livre de Philip K. Dick, Rapport minoritaire, The Minority Report, 1956. C'est une dystopie dressant le portrait d'une société dans laquelle la sécurité est maintenue par un organisme appelé pré-crime, qui arrête et condamne d'emprisonnement des personnes pour des crimes qu'elles auraient potentiellement commis, comme si elles n'avaient pas été arrêtées juste avant l'acte. Cette connaissance de ce qui va se passer est incarnée par des êtres appelés précog, des humains bénéficiant de dons de précognition. La précognition diffère de la prémonition. Elle touche au savoir, à la connaissance. C'est une situation où le cerveau définit des faits comme étant connus, tandis que la prémonition, du latin monitio signifiant avertissement ou conseil, apparaît comme un éclat mental qui prépare à une situation. La précognition m'apparaît au premier regard comme un oxymore. Mais plus j'y réfléchis, plus je me familiarise avec ce terme, donc avec cette idée, qui m'aide à sortir de la séquence implacable qu'est ma conception du temps. En 1927, l'aviateur et ingénieur aéronautique britannique John William Dunne, 1875-1949, publie An Experiment with Time, ouvrage dans lequel il soumet ses recherches sur le temps et plus particulièrement sur la prémonition. Se fondant sur sa propre expérience, Dunne nous demande de reconsidérer notre manière d'envisager et de comprendre le temps. Les rêves prémonitoires, qui sont à l'origine des recherches de Dunne sur le temps, sont expliqués selon une procédure claire. C'est une énumération extrêmement prudente, inscrite dans une narration et associée à des considérations théoriques. Sa théorie veut que chaque instant se situe simultanément dans le temps. Le passé, le présent et le futur ne se déroulent pas à la suite. Ils sont une seule chose, alors que notre conscience nous les fait vivre de manière linéaire. Il demande à son lecteur de regarder différemment les évidences et se place dans une démarche d'exploration de la conscience humaine. Cette conception du temps se rapproche entre autres de celle de la culture aborigène d'Australie, qui prend en compte le temps du rêve comme réalité simultanée au passé, présent et futur, et le rêve comme réalité objective. La conception du temps linéaire n'étant qu'une création de la conscience.
Summertime.
Box. Nova te masse la tête avec des mots très doux.
Flavien Berger sur Radio Nova. Flavien, si, puisqu'on parlait de prémonition, précognition à la Philippe K. Dick, si vous aviez la possibilité de savoir ce qui va vous arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 35 ans, est-ce que, et vraiment, disons que c'est moi qui peux vous donner ce pouvoir, est-ce que vous voulez voir ou vous voulez pas du tout savoir?
Ah ben, au fil de toutes ces lectures, j'ai cru comprendre que le but de tout ça, c'était de pas essayer de savoir.
Ouais.
Parce que il y a la prophétie. Une fois que la prophétie est dite, on rentre dans une boucle, quoi qu'il arrive. Donc ça existe depuis toujours. Après, est-ce que j'arriverai à ne pas vous demander quel est notre avenir?
Je sais
avenir
en fait. Ouais, j'ai l'info. Je sais ce qui va vous arriver.
On est dans un grand rituel en fait.
Ouais, je sais ce qui va vous arriver.
Est-ce que j'y arriverai? Je sais pas. Je pense que je crois que j'arriverai à pas demander. En tout cas, je ne veux pas savoir.
Vous voulez pas que je vous dise ce qui va vous arriver quoi, dans quelques minutes?
D'accord.
Ok.
Alors,
À mon avis, je suis presque sûr que vous allez nous proposer une nouvelle version de votre morceau Brutalisme, ici, au Marché Dauphine, au cœur des Puces de Saint-Ouen, en direct sur Radio Nova.
Pour ça, il faudrait que j'ai mon matériel.
Ouais, alors attendez, je vais essayer de faire apparaître votre matériel. Voilà.
Oh, waouh.
Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de pouvoir.
Ah, c'est fou.
J'ai le pouvoir aussi de signaler à nos auditeurs que nous sommes en ce moment sur Facebook Live pour pouvoir voir cet événement interplanétaire.
En direct, du coup.
Ouais.
Ah, c'est ça complique. Mais on pourra le revoir en replay, c'est-à-dire que dans le futur, on pourra regarder notre passé
On pourra voir notre passé dans le futur, en effet.
Et ce sera notre présent à ce moment-là.
Exactement.
Donc on pourrait.
C'est un sacré bordel. Hein.
Ouais.
Ouais. Est-ce que vous pourriez nous faire l'honneur de céder à cette prémonition? Mesdames et messieurs, Flavien Berger sur Radio Nova. Alors je précise, pendant que Flavien s'installe, que dans le clip de ce morceau, Brutalisme, qui figure sur l'album Contretemps, on voit un chevalier du Moyen-Âge égaré dans une ville nouvelle, c'est-à-dire un homme du passé dans une cité au design futuriste, mais du futur des années 60-70. Tout est déréglé, je ne sais plus quoi dire. J'aimerais avoir un peu plus de minutes avant jamais. Je suis suspendu à ce moment.
ultime bain. Noie ton chagrin, je ne suis pas loin, en vrai. Je te rejoins le mois prochain, je vais t'aimer l'éternité.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Flavien Berger sur Radio Nova, bravo! Alors, je vous avoue, mon cher Flavien, que je suis très 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 tenté de vous demander de fabriquer sur mon micro le petit effet là, de la fin pour que je puisse continuer à mener cette interview.
Faudra lui demander son avis. Elle existe. C'est une vocaloïde qui s'appelle Miku, qui est coréenne.
Miku.
Ouais.
Miku.
Qui prête sa voix à qui le veut bien.
Flavien, je vais maintenant vous proposer un petit jeu métaphysique intitulé « Si vous pouviez voyager dans le temps ». Je me suis pas trop cassé le cul pour le titre. Je fais un petit signe parce que normalement il y a un petit jingle pour ce jeu.
C'est... Hyper je l'ai ça dans mon synthé, je pouvais le jouer.
Flavien Berger, si vous pouviez voyager dans le temps, avec quel musicien français et étranger iriez-vous immédiatement passer un mois sur une île à papoter pour essayer de comprendre sa manière de travailler, sa vie, son œuvre ?
C'est horrible. Je crois que je dirais... c'est la question qui tue. Un musicien du passé ou du présent ou du futur?
Comme vous voulez, n'importe lequel, mais plutôt mort.
Plutôt mort?
Ouais.
Et combien de temps, vous avez dit, sur une île?
Un mois.
Un mois?
Ouais.
Ah, ok, c'est cool.
Ouais. Parce que 10 minutes avec Mozart, je suis pas sûr que...
Je crois que... Non, je pensais plus, genre la fin de la vie, un truc comme ça.
Ok.
Je dirais Serge Gainsbourg.
Ah ouais? Pourquoi?
Je sais pas.
Non, mais... Essaye de développer.
Parce que c'est le premier nom qui m'est venu, et tout à l'heure, j'étais avec une hypnothérapeute qui me posait des questions et je ne savais pas quoi répondre.
Vous étiez avec une hypnothérapeute?
Plutôt, on se l'est dit, oui. Au téléphone, ouais.
Oui, enfin, les gens ne sont pas en confidence.
On n'a pas fait avant, non, c'est vrai. Enfin, en live sur Facebook.
Oui, c'est ça.
Quoique, en même temps, si, oui, un petit vrai. Peu. Mais le fait est que... on n'a pas fait d'hypnose, mais elle me posait des questions très simples, et je ne savais pas quoi répondre. Et elle me disait « Répondez !»
Eh bien, je suis
forcément une réponse. Non,
ouais,
c'est forcément une réponse dans la tête. Et donc là, quand cet exercice est venu, je me suis d'abord demandé qu'est-ce que mes copains musiciens aimeraient que je dise. Après, je me suis dit qu'est-ce que le monde aimerait que je dise. Et il y avait tout le temps la tête de Serge Gainsbourg qui était là, qui attendait que...
Qu'est-ce que vous comprenez pas chez Serge Gainsbourg, qu'il pourrait vous apprendre après un mois en vacances ensemble?
Je sais pas.
Ok.
Non, mais on n'est pas. Je comprends. Il y a plein de trucs que je comprends pas dans sa musique, mais en même temps, elle est là. C'est que sa versatilité, c'est sa réinvention constante, c'est qu'il a fait des époques passées, des époques qui sont toujours contemporaines. Ah, il y a un petit clic. Ah oui. Un petit clic.
C'est une émission sur le temps, donc ouais. Du coup, on a mis le paquet sur les effets.
ouais, voilà. Enfin, et puis c'est quelqu'un. Un mois, c'est cool. Un mois, c'est cool. On a le temps de se remettre d'un mois sur une île déserte avec Serge Gainsbourg, je pense.
Si vous pouviez voyager dans le temps, iriez-vous passer un week-end à Rome chez les Flaviens, qui sont une dynastie d'empereurs romains qui ont régné de 69 à 96 sur l'Empire romain? Et si oui, quelles activités proposeriez-vous aux empereurs Vespasien, Titus et Domitien?
Le frisbee.
Le frisbee, le disco ball.
Ouais, voilà, le disco. Mais le disco ball léger, histoire qu'on puisse le récupérer, parce qu'un disco ball, c'est. Dans l'idée,
ouais, c'est balèze.
On a changé d'horloge.
Pour y lancer des vinyles, du coup?
Ouais. On pourrait lancer des vinyles. Je pourrais aussi apprendre à utiliser cet instrument que les gladiateurs utilisent, qui est le filet, qui est une des armes données aux gladiateurs, que j'ai jamais trop compris pourquoi on choisissait le filet.
Le filet, oui.
Quand on pouvait choisir.
Pour pêcher un peu plus vite.
ouais. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aussi comprendre ce qu'ils ont fait, parce que je dis souvent que mon nom, ça vient de là, mais que je ne sais pas trop vraiment en fait ce qui s'est passé à ce moment-là.
Très bien.
Puis je pourrais voir aussi, si on dit non, mais je pourrais voir aussi qu'est-ce que c'était vraiment Rome.
Rome.
Parce que là, on dit tout, ils étaient beaucoup plus clean qu'aujourd'hui et tout ça. Voilà.
Peut-être qu'on dit beaucoup de conneries sur l'Empire romain.
Je pense qu'on dit beaucoup de conneries sur l'Empire romain. voilà. Je pourrais peut-être libérer des esclaves.
Vous seriez quelque chose, en quelque sorte la Khaleesie de ce nouveau OS, la Mother of Dragons, c'est tout à fait vous.
J'ai ri, mais je ne comprends pas cette référence, mais j'ai ri.
Game of Thrones, pardon, excusez-moi.
Ah oui, je me le garde sous le coude.
Merci beaucoup. Jingle. Flavien Berger, si vous pouviez voyager dans le temps, croyez-vous que vous verriez dans le futur avec un peu moins de cheveux en train de reprendre une chanson de Michel Berger?
Alors, j'ai ce truc où je prends souvent en photo des gens qui seront potentiellement plus tard, potentiellement moi plus tard.
Ah ouais.
Donc, c'est souvent des gens j'ai trois photos, en fait.
Trois photos de
pour
vous,
l'instant.
De
j'ai une collection de moi plus tard, ouais.
Ah ouais.
Et donc, cheveux, vous avez dit perte de cheveux? Ou cheveux grisonnants?
Je ne l'ai pas souhaité, je l'ai évoqué.
Il y aura forcément moins de cheveux, ouais.
Mais il y a surtout, est-ce que vous voyez en train de reprendre une chanson de Michel Berger? Et je suis un peu embarrassé de répéter la question parce qu'elle est pas terrible.
Oui, si. En tout cas, je sais quelle chanson je reprendrai.
Laquelle?
L'amour existe encore.
Vous pouvez la fredonner comme ça?
Alors attends. Il y a un groove de dingue. Enfin, le refrain,
quelqu'un
c'est l'amour existe encore. Tac, ton tang, 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 tang,
tang,
tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, Oh, il y a plein de breaks de batterie.
Je crois que vous venez d'inventer une
nouvelle... On vient le faire, en fait.
Vous venez d'inventer une nouvelle catégorie qui est le RBG. C'est les reprises a cappella avec tous les instruments. Jingle.
Flavien Berger, si comme le héros de la série télévisée Code Quantum, qui est ma série télévisée préférée de tous les temps, si vous pouviez corriger les erreurs du passé, quelle est l'erreur que vous iriez corriger
ça,
alors de votre vie, de notre ensuite, vie. Deuxième question, pour la planète entière. Question hyper fastoche.
J'essaye de corriger les erreurs actuelles en arrêtant de bouffer de la viande et en arrêtant d'utiliser du plastique.
Ah,
bah ouais, mais
j'y
arrive pas encore.
Public.
Mais j'essaye. Hein. Et déjà, ça c'est.
Ça c'est les erreurs du présent. C'est les erreurs du
présent.
Ou présent. Ouais, mais alors, si vraiment vous pouvez empêcher un événement pour vous et un événement pour le monde. Ah ouais, c'est ça.
Bah. C'est-à-dire que. S'il n'y a qu'une seule réponse à cette réponse, c'est moi. C'est ma propre vie. C'est le seul lien qui fait entre.
Vous empêchez vos parents de copuler pour vous,
voilà.
Vous fabriquer.
Ouais, ouais.
L'idée est hyper belle, c'est digne de Daniel Clowes et de sa BD Patience.
C'est un peu un bordel. Hein,
c'est vous arrivez dans la chambre de vos parents en disant non, papa, ne jouez pas.
Ouais, mais le bug, c'est que dans Retour vers le futur.
C'est ce qu'il fait en fait.
Marty McFly
il
sa mère, tombe amoureuse de lui. Il y a un moment où on est.
On est Oedipe.
On penche vers un Oedipe très très profond. Mais d'ailleurs, je sais pas comment il s'en sort sans séquelles finalement psychologiques de tout ce qu'il a vécu de ses opus, mais bon.
Eh bien, il est là. Ah non.
là.
non plus. Donc, c'est votre réponse. Vous empêchez votre propre.
Bah, pour répondre à cette question, dont le seul lien que je vois entre moi et le monde, c'est mon existence. Du coup, je.
Vous annulez votre existence.
Mais bon, j'aimerais bien quand même faire un album avant.
Est-ce qu'il y a un souvenir particulièrement douloureux que vous n'avez pas envie de revivre et vous pourriez. L'annuler justement. Est-ce qu'il y a une confidence que vous voudriez nous faire sur ce sujet? Non, on va pas aller sur le biographique, ouais.
Non.
On comprend mieux. Eh bien, c'est
Serge
la fin.
Gainsbourg.
Du... Serge Gainsbourg. C'est la fin du jeu. Bravo et merci.
Merci, j'ai gagné. Alors.
Oui, bah, je crois, non, il a gagné, j'ai l'impression. Ouais. Votre mémoire de fin d'études, on va y revenir une dernière fois, est centrée, on l'a dit, sur l'univers et la personnalité tout à fait hors norme de l'artiste et américain, de l'artiste et architecte américain Paul LaFollette, mort en 2015 à 80 ans. Vous avez tenté de résumer sa vie mouvementée, qui contient des histoires incroyables, que je vais lire à mon tour, de nouveau sur l'un de vos instrumentaux. C'est, pas de problème ?
Avec plaisir.
Ok.
Nova Book Box. Nova te mince la tête avec des mots très doux.
Paul LaFollette naît à Cambridge, dans le Massachusetts, le 14 août 1940, de parents catholiques irlandais. Le lendemain de sa naissance, la clinique qu'il a vue naître est détruite par un incendie. La légende veut, du moins selon les articles que j'ai lus sur lui, qu'il ait dit son premier mot dès 6 mois et que ce mot a été Constantinople. La légende veut également qu'il n'aurait plus parlé jusqu'à ses 4 ans. Les médecins diagnostiquent un autisme léger, une forme bénigne du syndrome d'Asperger. Son père est banquier et président de la Cambridge Trust Company. Paul LaFollette Senior, à 12 ans, était régulièrement amené à faire des démonstrations de ses pouvoirs médiumniques dans un théâtre à New York, qui était la première église spiritualiste des États-Unis. Toute sa vie, il gardera un côté proche du surnaturel, des croyances ésotériques et non conventionnelles. Paul LaFollette Junior assiste parfois à des séances médiumniques. Un jour, son père place sur la table de la salle à manger une machine à fantômes. Inventé par Thomas Edison en 1920. Son père lui annonce qu'il va communiquer avec les morts. Sa mère sort de la pièce. Son père agrippe les électrodes et très vite rentre dans une transe qui impressionne son fils. Son père se met à parler avec une autre voix.
La voix est celle d'un jeune homme qui s'est suicidé et qui s'avère être un membre de la famille Fipin, les occupants de la ferme d'en face de sa maison. Son père engage un dialogue avec lui-même, alternant ses voix, une fois la sienne, une fois celle du malheureux visiteur. La séance se termine quand son père réussit à le convaincre que le salut se trouve ailleurs que dans le monde des vivants. Mais le trait le plus inattendu de la personnalité de ce père, c'est qu'il ne croit pas en la gravité. Paul est donc un jeune garçon qui évolue dans un monde dans lequel les significations de la réalité et de la logique diffèrent de celles des enfants de son âge. Il écrira « Depuis 1947, l'homme qui coupait les buissons de ma maison familiale de Belmont, un immigrant originaire du sud de l'Italie, près de Naples, m'apportait régulièrement des histoires de soucoupes volantes. Cet homme me racontait comment lui et son fils autiste avaient été soulevés par des faisceaux de lumière et amenés dans une disco volante, l'expression italienne pour soucoupe volante. Il aurait vu de nouveaux équipements, de nouveaux mondes et des êtres rayonnants vieux de centaines d'années terrestres et proclamait y être monté à bord 17 fois. Les êtres lui avaient donné le symbole de l'ordre de Melchisédek, prouvant au reste de la planète qu'il était digne d'aider au développement de la tradition cosmique. Le jour où il arrêta de travailler pour mes parents pour rentrer chez lui, en tendant ses mains tremblantes, il m'offrit le médaillon. Je l'étreignis, et le voyant en sécurité, il pointa mon arcade sourcilière de son index et prononça dans un anglais bancal « Pour le salut de l'Esprit Tout-Puissant ». Stupéfie ce monde. Cet homme s'appelait Giuseppe Conti et le médaillon qu'il offrit à Paul représente une svastika circonscrit dans une étoile de David. C'est le symbole du Bardo Todol, le livre des morts tibétains. L'expérience qu'il fait adolescent du traitement électrochoc pour soigner une tendance à la catatonie le marque. Il dit avoir traversé la cinquième dimension. En 1962, Paul est diplômé en histoire de l'art dans le Rhode Island. La même année, il entre à la Harvard Graduate School of Design à Cambridge, dans le Massachusetts. Il y suit des cours d'architecture et de design. Il propose des projets tels qu'un pont entre la Terre et la Lune. Paul est noté par une lettre combinant un A et un E. Le corps enseignant aime l'idée, lui reconnaît des qualités, mais ne peut se résoudre au fait que le projet est technologiquement et physiquement impossible. Alors, afin de ne pas trancher, ils inventent la note AE. La situation se répète au cours des projets suivants. Paul continue malgré tout de présenter des projets irréalisables. Un grand jury décide de le renvoyer pour déviance conceptuelle. En 1992, Paul Lafollet a 52 ans et il commence à perdre ses dents. Il prend la décision de se faire faire des implants. On lui fait passer un scanner. Les résultats font apparaître un morceau de métal d'environ 1 cm arrondi aux extrémités dans le lobe occipital du cerveau. Il ne trouve dans son passé aucune explication matérielle à ce corps étranger. Paul comprend que ce morceau de métal est un implant extraterrestre venu d'un laboratoire bio-nanotechnologique. Les idées qui lui viennent, ses visions, seraient liées à cette puce ultra-puissante qui recevait des informations d'un au-delà bienveillant. Il en serait le traducteur cosmique. Et alors qu'il feuillette le livre de Donna Cossi, intitulé Cooks, il trouve une photo de Claude Vorilon, l'homme qui lui a volé son pendentif 30 ans plus tôt et qui se fait appeler Raël, et qui s'annonce comme guide contacté par une puissance extraterrestre. Il porte autour du cou son bien le plus précieux, mais ne rejoint pas cette secte et pourtant récupère son pendentif. En 2001, Alors qu'il tente d'atteindre des documents haut perché, dans sa Boston Visionary Cell, il tombe d'une échelle et se blesse gravement à la jambe droite, à tel point que les médecins sont obligés de l'amputer au-dessous du genou. Il contacte alors un ancien concepteur d'effets spéciaux hollywoodien afin qu'il lui conçoive une patte de lion qui puisse s'enfiler comme une prothèse ordinaire. Ce sera celle qu'il porte en public, notamment lors de ses conférences. Paul La Follette n'est à pas en douter un être obsessionnel. Il a regardé le film Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, qui date de 1951, plus de 750 fois. J'ai, nous dit Flavien Berger, pour ce mémoire, visionné et lu le plus d'interviews de lui possible, et il est notable qu'il répète au fur et à mesure les mêmes histoires, de la même manière, au mot près. Son syndrome d'Asperger joue un rôle dans la manière qu'il a d'expliquer ses travaux, en perdant son lecteur dans des digressions verbeuses. Beaucoup de ses textes sont très difficiles à saisir, tout comme ses tableaux. Il faut passer du temps pour comprendre chaque brique de son édifice mental qui n'emprunte pas les mêmes lois architecturales que pour la plupart des êtres humains. Son travail est fait d'évocations de mondes privés, ayant un sens qui leur appartient et qui fourmille de détails récurrents. Paul La Follette, à vous-même, être peut-être un peu fou. Paul La Follette est un artiste américain mystique, universaliste, visionnaire, infirme physiquement et atteint d'une affection mentale qui propose aux autres êtres humains des énigmes d'une haute complexité, pourtant solubles au travers d'un parcours propre à chacun de nous. Paul La Follette est un super-héros.
De Radio Nova.
La vie et l'œuvre de Paul La Follette, ainsi résumée par mon invité de ce soir, le musicien Flavien Berger. Alors, est le plus beau quand on sait que nous sommes, je le rappelle, en public. En public et en direct du marché Dauphine, au cœur des Puces de Saint-Ouen, rue des Rosiers, sous la verrière du marché Dauphine. Le plus beau, c'est de se rappeler que nous sommes au pied d'une magnifique soucoupe volante, conçu en 68 par un architecte finlandais, et que l'un des livres publiés par Paul La Follette en 1998, 30 ans plus tard, s'intitule, 30 ans après la création de cette soucoupe, s'intitule Disco Volante, donc soucoupe volante en italien. Je suis abasourdi par cette coïncidence.
Moi aussi, et elle s'est... Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit, bon, et là, je dis votre nom et vous sortez de la soucoupe volante.
Ouais. C'est vrai, j'ai d'abord pris que vous connaissiez les coulisses de ce programme.
J'ai d'abord pris ça pour une blague par rapport à ce qu'on préparait, quoi.
Ouais.
Et puis en fait, il y avait vraiment une soucoupe.
Il y avait vraiment une soucoupe, ouais. On met et le paquet, on a peur de rien.
Ouais, c'est incroyable. Et je pense qu'il devait connaître cet architecte, Paul La Follette. À mon sens, il devait le connaître, puisqu'il s'intéressait à Buckminster Fuller, à la géodésie, à plein de trucs qui sont un peu liés à la nouvelle habitation, quoi. Et puis voilà, il devait recenser aussi tous les trucs qui ont une forme de soucoupe volante sur la planète.
De quoi parlait ce livre, Disco Volante, soucoupe volante?
Alors c'est une analyse, il faut que je me remette. En fait c'est un essai, c'est une analyse d'un rapprochement justement de ce film, Le jour où la Terre s'arrêta, qu'il a vu
750 fois.
On sait combien ça fait en heures, ça?
750 multiplié par 2 heures,
90
1400,
minutes,
hein. Ouais.
Bon, c'est énorme. Et du coup en jour, enfin si on peut avoir un petit tableau Excel qui nous fait ça en semaine.
On va mettre tous nos stagiaires sur le
coup. Ok, merci. Hein,
histoire d'avoir la formation avant la fin de cette émission.
Et il fait ce rapprochement entre ce film, dans lequel il voit énormément de signes, Et l'architecture et les formes classiques et le nombre d'or. Et voilà, et puis après, il tricote là-dedans et il voit des signes, des chiffres, des chambres, tout ça, tout ça, tout ça.
Le trait et la folie, littéralement, du moindre détail qui se cache dans les tableaux parfois hyper géométriques de Paul La Follette, notamment celui que vous avez passé un an à étudier, peut rappeler le trait de son compatriote Chris Ware. Vous savez, ce génie de la bande dessinée qui est toujours en activité, le père de Jimmy Corrigan, l'enfant le plus intelligent du monde. Et j'aimerais savoir si dans le public, c'est votre moment, j'aimerais savoir s'il y a des spectateurs hyper intelligents qui seraient par exemple intelligents au point de voir l'avenir. Ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent du futur dans le public ? Manifestez-vous, c'est carrément, vraiment, c'est maintenant ou jamais. Personne ne sait ce qui va se passer dans moins de 3 minutes. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui peut se passer. Quelqu'un voudrait faire une proposition d'événement qui pourrait avoir lieu. Ah, vite, bientôt. Il va pleuvoir. Alors, ce n'est pas un événement génial puisque nous sommes protégés par la verrière. Oui, quelqu'un d'autre avait une idée ? Oui, eh bien, effectivement, vous avez la capacité de voir le futur. Je vous félicite. Flavien Berger. Nous feriez-vous l'honneur d'un second morceau en live qui s'intitulerait, parce que moi aussi, en fait, j'arrive à voir ce qui est de demain, Océan Rouge.
Oui.
C'est un morceau.
C'est un morceau du passé.
Un morceau du passé, mais qui peut parler de Mars, peut-être, Océan Rouge. C'est ce qu'on.
Ouais.
C'est la planète Mars, en fait, quelque part.
Ouais, je crois que ça parle de ça. Et c'est un morceau que j'ai fait, que j'ai commencé à bosser quand j'écrivais ce mémoire.
Ah ouais. Finalement, la boucle se boucle.
Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi.
C'est très mignon. est-ce que vous avez besoin que je meuble un peu pendant que vous vous installez ?
Un petit peu, avec plaisir.
Ok. Ouais.
Merci.
On encourage Fabien Berger, s'il vous plaît. Flavien Berger sera en concert le 4 juillet à Paris, lors d'un plateau Fnac, le 6 juillet à Hérouville, le 12 à Dour, le 14 au Francopholis de La Rochelle, le 18 au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne et encore plein d'autres dates à Lyon, à Bordeaux, à Dijon, jusqu'au Casino de Paris, les 2 ou 3 et 3 décembre. Yes.
Thank you.
retrouvais la pesanteur des effluves érotiques se dégagent des profondeurs dans les courants volcaniques. Tu t'abandonnes à la chaleur, ce paysage aquatique et la peau te sauver le cœur, oh le cœur.
Flavien Berger sur Radio Nova entre chien et loup. Alors là, vraiment, c'est incroyable, ça tombe pile. Merci infiniment, Flavien,
pour, à l'infini.
À l'infini d'avoir été notre invité ce soir. La Nova Book Box saison 7, c'est terminé. Je tiens à vous remercier, cher public, d'avoir été avec nous pour ce voyage à travers le temps. Je tiens à remercier mon partenaire au quotidien, le réalisateur de cette émission, mon jeune Emmett Brown, qui finira bien un jour par inventer son propre convecteur temporel, l'excellent Sullivan Clabot. Je remercie également les réalisateurs et réalisatrices qui furent cette saison aux commandes aussi de ce vaisseau spatial, Juste Bruyat, Lucille Ossel, Benoît Thuot. Merci aussi à Adèle Caglar pour son aide ce soir, ainsi qu'à Malo Williams et Emmanuel Beau. Merci infini à Michael Liot et Guillaume Giraud pour la programmation musicale, sans lesquels mes voyages intersidéraux seraient un peu monotones et beaucoup moins funky. Merci à toute l'équipe du web pour les podcasts et les réseaux sociaux. Massinissa Naït Mouloud, Bastien Stizy, Morane Aubert, Clémentine Spiller, Marie Bellet. L'émission de ce soir a été filmée et photographiée par Baptiste Artru et Rémi Benchebra. Merci à Rémi pour son aide quotidienne et son joli petit Bob. Remerciements galactiques à Mélanie Mallet, Estélie Hernandez-Ortiz, Rudy Aboab pour leur aide à la conception de cette émission, ainsi qu'à Eva Stenitz et toute l'équipe du Marché Dauphine et de chez Lorenzo pour leur accueil. Je vous laisse. Je n'ai plus qu'à faire démarrer cette soucoupe volante pour remonter dans le temps, jusqu'au moment où on pouvait encore empêcher le réchauffement climatique. Je vais tenter de convaincre nos ancêtres de ne pas commettre l'irréparable et si tout se passe bien, je serai de retour en septembre sur cette antenne pour de nouvelles aventures littéraires. Au revoir mes amis, bonne nuit, bon été, bonnes vacances, nom de Zeus!
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.